Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h08 sur RTL et c'est parti jusqu'à 13h30 pour les auditeurs ont la parole. Venez commenter l'actualité. Êtes-vous prêt à recevoir une troisième dose si vous êtes déjà vacciné? Vous semble-t-elle indispensable pour les plus fragiles, pour les plus âgés comme en Israël, en Allemagne où la décision a déjà été prise? Et puis, est-ce si difficile de s'occuper de ces animaux de compagnie pendant l'été? Les campings et les locations vous empêchent-ils d'emmener votre chien, votre chat? Les abandons d'animaux battent des records, c'est ce qu'indique la SPA. Le patron de la SPA était ce matin sur l'antenne de RTL. Vous réagissez au standard de RTL. Ce qui vous fait réagir avant tout, c'est cette fameuse troisième dose. Et nous sommes avec Marcelin. Bonjour Marcelin.
Bonjour Bénédicte.
Vous êtes médecin, je crois.
Oui, je suis médecin sur la côte atlantique, en Vendée.
En Vendée. Bon, il ne fait pas un temps terrible là-bas. Hein.
Ah, pas terrible, non. On ne va pas en parler.
Alors, la troisième dose, est-ce que vous vous en doutiez? On en parle déjà depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui vous semble... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que ça vous semble une bonne piste?
Bah, écoutez, oui, effectivement. Hein, et je pense qu'il faut suivre les indications de nos confrères qui sont d'éminents spécialistes, hein, qui se réunissent au consensus. Et qui émettent des consensus et qui évaluent l'apport d'un schéma plus complet de vaccination pour diminuer toujours le risque de décès, de mort et de cas graves. Hein. Faut pas trop se poser il semblerait quand même que l'on se pose beaucoup, peut-être trop de questions sur. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'exprimer, mais on se pose peut-être des questions de façon un peu injustifiée par rapport à ce vaccin qui a l'air d'être un bouc émissaire alors qu'on n'a jamais eu. On n'a jamais eu une vaccination aussi efficace pour sauver des gens, pour être aussi efficace pour sauver des vies. Dans mon expérience de médecin, moi, en 28 ans, j'ai jamais connu un vaccin aussi efficace et aussi valable. Alors, de grâce, oui, il faut aller jusqu'au bout et puis permettre aux gens de vivre en sécurité le plus normalement possible.
Hein. Alors, vous qui êtes médecin, je vais vous poser la question. Une troisième dose, ça sert à quoi?
La troisième dose, elle va permettre de conforter l'effet des premières et deuxièmes doses. Hein, c'est-à-dire, on sait que quand on acquiert une immunité par un processus vaccinal, le taux d'anticorps a tendance à diminuer avec le temps. Hein, et on sait qu'on a besoin de réveiller, de restimuler, de rebooster la fabrication d'anticorps et éventuellement la fabrication cellulaire de défense. Pour être plus efficace, hein, pour lutter contre cette pente descendante de la protection avec le temps.
C'est-à-dire que, bon, il va y avoir une troisième dose, hein, on la sent bien venir, hein, n'est-ce pas Marcelin? Mais il pourrait aussi y en avoir une quatrième, une cinquième, et un vaccin tous les ans?
Est-ce qu'on se pose la question pour la grippe, qui occasionne quand même à peu près aux environs de 8-10 000 morts par an? Voilà.
Non, c'est vrai.
On a la chance d'avoir des armes pour lutter contre des maladies qui vont être les nouveaux fléaux, hein, ces maladies virales qui émergent. Pour une fois qu'on a eu un vaccin aussi rapidement, aussi efficace, il faut arrêter de faire la fine bouche.
Alors Marcelin, reste avec nous, on va accueillir ensemble Gaëtan. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Vous nous appelez du Pas-de-Calais?
Oui.
Vous êtes aide-soignant, je le dis aussi, hein, vous travaillez aussi un peu dans le milieu médical. Vous êtes pour la troisième dose également?
Oui, mais moi, sorti à peut-être faire un test sérologique avant de déterminer s'il faut faire une troisième dose.
Pourquoi? Pour voir si on a déjà pas trop d'anticorps, c'est ça?
Oui.
Vous pensez que c'est nécessaire?
À mon avis, oui.
Parce que?
On parle surtout des personnes qui sont fragiles.
Oui.
Mais je pense aussi qu'en tant que soignant, on va aussi nous demander de faire peut-être des troisièmes doses.
Oui, c'est ça. Vous avez peur d'avoir trop d'anticorps? Trop d'anticorps, Marcelin, c'est possible? Est-ce que vous êtes encore avec nous, Marcelin?
Oh. Oui. Voilà. Vous m'entendez?
Oui, très bien, je vous entends. Merci.
Écoutez,
il faut doser. Vous êtes d'accord avec Gaëtan? Il faut doser avant. Il faut regarder un petit peu le prélèvement sanguin.
Alors, moi, je respecte tout à fait le point de vue de Gaëtan, qui est un soignant comme moi. La chose, c'est qu'on n'a pas de normes. C'est une maladie nouvelle, on n'a pas de normes. Et donc, trop d'anticorps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que cela veut dire. Et on ne sait pas non plus à partir de quel taux on est efficace. En tout cas, on a pu voir que quand on vaccinait des gens avec deux doses, au bout d'un certain temps, l'immunité déclinait. au point que ça remet en cause l'efficacité vaccinale.
D'accord, mais ça n'arrive pas, par exemple, qu'on ait trop de vaccins. Parce qu'il y a des gens, ils se disent ça. Ils se disent, j'ai le Covid et vous voulez déjà m'injecter du vaccin alors que j'ai déjà des anticorps. Il n'y a pas de danger.
Jamais en médecine, on peut dire qu'il n'y a pas de danger. Mmh. C'est l'évaluation entre un risque et un bénéfice encouru qui permet d'adopter la décision la plus favorable. Mais jamais on peut dire à quelqu'un, il n'y a pas de danger. Hein. Malheureusement, les personnes qui ont eu des effets secondaires ou malheureusement des issues fatales par rapport au vaccin, elles existent, elles sont très peu nombreuses, mais c'est bien regrettable. Et alors, si on avait pu faire autrement, bien sûr, ce serait formidable. Cela dit, on a sauvé un grand nombre de gens avec cette vaccination. Et il faut entretenir notre capital préventif par rapport à ce virus. Et si ça doit passer par une troisième injection, faisons la troisième injection.
Gaëtan, vous êtes d'accord avec Marcelin ?
Ah oui.
Les réponses de Marcelin sur justement ces anticorps, ça vous rassure ou pas ?
Ah oui, non, mais j'ai pas de doute sur ce qu'il me dit. Hein.
Mm-hmm. Vous, de toute façon, vous êtes pour la troisième dose, oui, je vous écoute.
Après, oui, c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai fait mes injections, j'ai été mal pendant au moins 24 heures.
Oui, vous avez eu un petit peu, comme certains, de la fatigue, mal à la tête ?
Plus proche des symptômes d'une grippe.
Oui. Merci beaucoup Gaëtan pour être intervenu sur notre antenne. Marcelin, vous restez avec nous parce que nous allons accueillir ensemble Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Bonjour, vous nous appelez de Charente.
Charente-Maritime. À côté de La Rochelle.
Alors, il fait quel temps chez vous ?
Il pleut.
Mais c'est joli aussi la Charente sous la pluie.
Oui, très très beau la Charente.
Je suis sûr que vous allez avoir un bel arc-en-ciel dans quelques heures. Alors vous avez la troisième dose, ça vous semble nécessaire ou pas ? Nécessaire ou pas, je vous dis ça, Pierre, parce que vous et moi, on n'est pas médecins, donc on n'en sait rien. Mais vous pensez, vous la sentez venir aussi.
Voilà, non, mais moi, depuis que je suis né, je vais dire, je fais confiance au corps médical. Donc au début de la pandémie, j'en parlais avec mon médecin traitant. Bon, voilà, il faudra attendre qu'il y ait un vaccin. Bon, ben voilà, il y a eu un vaccin, donc je me suis fait vacciner quand j'ai pu, puisque j'ai 71 ans. J'ai attendu que ma tranche d'âge arrive, et puis je me suis fait vacciner les deux doses, voilà, sans problème. Comme je suis assez fragile, je suis souvent rhumé, moi, toute l'année, aussi bien l'hiver que l'été, parce que je suis sensible à l'humidité l'hiver et au froid, et l'été à l'humidité et au chaud. Bon. Donc, voilà, je suis sensible. Donc là, il y a quelques temps, je toussais beaucoup, donc j'ai téléphoné à l'application Tous Anti-Covid.
Oui.
Qui est sur mon téléphone, donc on m'a conseillé, on m'a dit, allez passer un test PCR, et quel que soit le résultat, demandez à votre médecin qu'il vous fasse une prescription pour pas faire une prise de sang, un test sérologique.
D'accord.
C'est ce que j'ai fait, donc j'ai eu le résultat, bon c'est difficile de savoir, on a des résultats comme ça, il a fallu que je rappelle le laboratoire, c'est assez compliqué de trouver quelqu'un qui vous explique, parce que ils vous disent eux-mêmes, les laboratoires, c'est assez flou. Parce qu'en fait, il me dit, la bonne nouvelle, c'est que vous avez des anticorps, donc votre corps a bien réagi. Est-ce qu'il a réagi au vaccin ou est-ce que parce que vous avez eu la Covid il y a quelques mois ? On ne sait pas, donc ça, c'est assez flou. Mais bon, le principal, c'est que j'ai des anticorps. Ce que j'espère, c'est si on doit passer la troisième dose, mais je n'en doute pas, on fasse passer à tout le monde un test sérologique, savoir si on a suffisamment d'anticorps. C'est pas la peine de revacciner une troisième fois si on a des anticorps. Bon, voilà, comme moi j'ai des anticorps.
Oui, vous êtes sur la même longueur d'onde que Gaëtan. Voilà. On va se demander au docteur Marcelin, il faudrait un espace temporel de combien de temps entre la deuxième et la troisième dose ?
Écoutez, je pense que pour l'instant, les choses ne sont pas déterminées de façon définitive. Voilà, il y a des choses qui sont en cours et des autorisations qui sont en train d'être accordées. Je pense qu'il faut se donner un petit peu de temps quand même, puisque tu vas très vite, mais je ne peux pas anticiper là-dessus. Hein.
Bien sûr. Pierre, donc vous êtes pour cette troisième dose. C'est déjà le cas, on le dit, hein, la décision a été prise en Allemagne,
oui,
elle a été prise en Israël.
Oui.
Donc, je pense...
Si c'est nécessaire, il faut une troisième dose, et ben on ira prendre une troisième dose. Moi, mon médecin m'avait dit, quand j'ai pris ma retraite, en 2010, de me faire vacciner contre la grippe, parce que j'étais fragile. Donc, depuis 11 ans, je me fais vacciner contre la grippe, et aucun problème. Et comme je disais à votre standard, moi, je fais partie de cette génération. Quand j'avais 6 ans, 1956, vaccination obligatoire à l'école contre la diphtérie, la coqueluche, la tuberculose, avec rappel tous les ans jusqu'au service militaire. Et à l'époque, nos parents n'étaient pas complotistes ou soupçonneux. Oh, mais non, tu vas pas te faire vacciner, il n'y a pas assez de recul et tout. Tout le monde se faisait vacciner. Et voilà, et je remercie beaucoup mes parents parce que ça m'a évité d'avoir le tétanos ou la diphtérie ou la tuberculose, etc.
La polio, on en parlait beaucoup.
La polio, voilà. J'ai toujours mon carnet de vaccination parce qu'on était 6 enfants à la maison. Ma mère gardait précieusement. Alors, donc j'ai toujours mon carnet de vaccination avec toutes les dates. Et je vous dis, on avait jusqu'au service militaire, à 20 ans, on avait le super rappel, là, une seringue monumentale, je dis ça en rigolant, où on avait tous les rappels. Alors, ils nous prévenaient, attention, vous allez être... on n'avait pas le droit de sortir de la caserne, parce qu'il y avait des effets secondaires et tout. Bon, moi, j'avais aucun effet secondaire, et autour de moi, aucun. Donc, voilà, la vaccination était obligatoire. Les parents ne se posaient pas des questions, etc.
D'accord.
Tout le monde se faisait vacciner et moi je suis resté dans cette optique-là, je veux dire, pour aller à l'école encore ou en crèche ou en garderie, en colonie de vacances, en 2021, il faut se faire vacciner. Hein.
Ok, merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé. Marcelin, vos patients, ils vous parlent déjà de la troisième dose quand ils viennent vous voir ?
Oui, ça arrive tout à fait. Certains sont déjà dans des dispositions pour le faire. Bon, voilà, je trouve que Pierre est très lucide sur ce qu'il dit par rapport aux vaccinations dont on a pu bénéficier depuis tout le temps. Et on a cette chance-là par rapport à d'autres personnes qui vivent dans le monde. Et avoir un bras un petit peu démasqué et avoir un syndrome grippal 24 heures, c'est rien par rapport à ces gens qui sont décédés ou ces gens qui ont été transportés à 600 ou 800 kilomètres de chez eux pendant des mois en réanimation. Hein.
Merci. Merci beaucoup, Marcelin, de nous avoir téléphoné de Vendée. Merci aussi à Gaëtan et Pierre. On va changer de sujet maintenant, si vous le voulez bien.
Bénédicte Tassard.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 13h20, on va changer de sujet. On va parler un peu des abandons d'animaux et de la SPA qui lance ce cri d'alarme. Il y a saturation dans les refuges. C'est le cas, par exemple, au Beau-de-Provence. Daniel, bonjour.
Bonjour Bénédicte.
Vous êtes donc président de la SPA, là-bas, dans le Gard ?
Oui. Alors non, c'est dans les Bouches-du-Rhône.
Ah, dans les Bouches-du-Rhône, oui, les Beaux-de-Provence, excusez-moi.
Les Beaux-de-Provence.
J'ai fait un petit détour.
Oui, c'est pas grave, mais j'habite le Gard. Donc, j'ai un pied dans chaque département.
Vous confirmez cette reprise massive des abandons ?
Oui, tout à fait. Il y a une reprise des abandons. C'est vrai que durant le confinement, ça s'était un petit peu calmé. Les gens n'arrivaient pas à circuler. Donc, je pense que les abandons avaient, par la force des choses, diminué. Et puis depuis ce début d'été, c'est vrai que nous avons une hausse des abandons, aussi bien en chiens, mais également énormément en chats. Ce sont des portées complètes de chatons qui rentrent, mais aussi des portées de chiots qui sont abandonnés, alors soit directement dans notre refuge ou plus de manière un petit peu plus malheureuse, carrément dans la rue.
Ce sont des jeunes. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chats castrés pendant le Covid, vous pensez ? C'est dû à quoi ?
Tout à fait. Pendant le Covid, il y a eu un manque, si vous voulez, de stérilisation, notamment chez les félins. On a des portées qui arrivent en masse, des gens qui nous appellent parce qu'ils ont des portées alors qu'ils sont nés chez eux ou à côté de chez eux, c'est qu'à vous, des fois trouvé, mais enfin, tout n'est pas trouvé, hein, hélas. Ou tant mieux. Mais voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de portées et pareil, chez des chiens, on a également des portées qui sont rentrées là, ces jours-ci. Alors les chiots, c'est vrai que ça se place beaucoup plus facilement que des chiens qui ont 2 ans ou 3 ans, voire plus. Mais pour autant, nos refuges sont saturés. On avait connu une baisse des places dans les refuges à un moment donné.
Et vous faites comment alors pour les accueillir ? Comment vous faites pour vous occuper d'eux au quotidien ?
On a quelques familles d'accueil qui viennent sur les animaux jeunes nous aider, bien évidemment. ça évite de les garder au refuge et de les mettre, si vous voulez, en sécurité, parce qu'il y a un petit peu moins d'animaux présents et ils sont dans un espace, si vous voulez, un petit peu différent. Et puis, ils sont en famille, c'est mieux que d'être des fois en boxe. Et puis après, ben après on se débrouille, on pousse un petit peu les murs, on va dire. Là où des fois on n'a qu'un chien, bon, on en met deux quand ils sont compatibles, bien évidemment. Parce que ça aussi, c'est des fois le problème.
Bien sûr.
Mais on arrive, si vous voulez, on arrive à sursoir à cette montée, mais c'est quand même difficile. Ça implique plein de choses, et ça implique beaucoup plus de travail.
Pour des bénévoles.
Ça implique, voilà, des bénévoles. Alors, on a du personnel et des bénévoles.
Qui sont là,
heureusement. Et je les salue, d'ailleurs. Il y a un travail extraordinaire fait par les bénévoles, au niveau de nos associations. Et je crois qu'il faut saluer le travail qu'ils font. Sans eux, on n'arriverait pas à faire tout ce qu'on fait.
Bien sûr. Merci, puis, Daniel. On va accueillir ensemble, voilà. Si vous le voulez bien, Véronique. Bonjour, Véronique.
Bonjour.
Vous nous appelez de Seine-et-Marne.
Ouais, c'est ça.
Et vous avez des chats. Vous en avez
oui,
pas mal, quand même.
Ouais, j'en ai quatre.
Quatre.
Ben, c'est des SDF. Comme je dis, j'en ai deux au moins. C'était des SDF. Trois SDF, comme je dis.
Ah, des SDF.
Non, j'ai une façon de parler, mais parce que c'est des chats que j'ai récupérés, qui étaient mon fils, un copain qui les avait trouvés en bord de route.
Ah,
il y
oui.
avait six portées de chats. Six dans
oui,
un.
Oui,
dans
donc
un
vous carton. Ne les avez pas conduits au refuge.
Ah ben, lui, il les a donnés. Donc,
oui.
Moi, j'en ai deux. Ils ont maintenant 10 ans. Une autre petite que mon fils avait récupérée chez quelqu'un, parce que je pense qu'il partait en vacances. Il voulait s'en débarrasser. Donc, elle a 9 ans. Et le dernier que j'ai retrouvé, pareil, il a 12 ans. Voilà.
Alors, ils s'appellent comment, vos chats?
Alors, j'ai Malice et Mimi. Mia, là, c'est celle qui a 9 ans. Et puis, Muki.
Ah, que DM.
Que DM. Que DM, j'avais un Léo que j'ai perdu et du coup j'ai réadopté un autre parce qu'il était, on m'avait téléphoné, il était chat, c'était un chat roux que j'avais et puis là j'ai retrouvé un chat roux et blanc et puis il est tellement affectueux, tellement
ben,
voilà.
On s'attache.
À côté. Mais oui, c'est, cool. Puis c'est comme vos enfants. Hein.
Enfin,
là j'ai mon fils,
presque.
J'ai mon fils qui est là, j'ai mon
bon,
fils
il
qui
n'est
est
pas
là,
vexé.
Il est là.
Il n'est pas vexé
non.
que vous disiez
non,
ça.
Non, j'ai mon fils qui est là, qui a ramené sa petite chatte qui s'appelle Lily, vous voyez.
Ben.
Donc, là, on est
il y a du monde
chats,
à la
donc,
maison. Daniel, ça arrive encore qu'on abandonne des animaux sur... avant, on disait, on trouve des chiens avec des laisses attachées aux arbres sur les aires d'autoroute. Ça arrive encore?
Et malheureusement, oui, ça arrive encore un tout petit peu. Qu'on trouve en effet des chiens qui sont attachés dans des endroits, des fois même un petit peu reculés des endroits de passage. Mais ça arrive, c'est pas le courant, hein, mais oui, tout à fait. Oui, on a eu des chiens, nous, on a eu trouvé des chiens attachés dans une forêt. Hein, alors qu'on est là quand même pour
mais
répondre.
Oui. Alors que maintenant, on sait quand même où
quoi.
Sont les refuges. On va
tout
accueillir Romain, si vous le voulez bien. Romain qui nous appelle du Nord. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors vous avez dit au standard une phrase qui m'a interpellée. Je lutte contre l'abandon chaque jour. Vous êtes gardien d'animaux, c'est ça? Vous gardez
c'est
les
ça.
Animaux des gens.
Je suis pet sitter, oui.
Pet sitter, comme on dit. Mais comment ça, vous luttez contre l'abandon chaque jour?
En fait, moi, je fais du service à la personne. Donc, du coup, je propose mes services en tant que pet sitter pour justement garder les animaux chez eux. En général, parce que l'animal est sans doute mieux chez lui qu'ailleurs. Après, toute solution est bonne à prendre, mais moi, c'est celle que je préconise. En fait, je fais ça parce que j'ai un diplôme d'assistant vétérinaire que j'ai transformé en tant que pet sitter pour justement être plus proche des personnes que je n'avais quand j'étais en clinique. Et ça fait 8 ans maintenant que je suis auto-entrepreneur et j'ai déjà entendu plusieurs personnes me dire « Ah, c'est intéressant d'avoir cette solution de quelqu'un qui passe à la maison » parce que justement, on ne connaissait pas du tout ça. Et j'ai déjà eu malheureusement une de clients à l'époque qui disait que si on n'était pas tombé sur quelqu'un comme moi, voire même quelqu'un d'autre, eh ben, ils ne sait pas ce qu'ils auraient fait de leurs animaux et c'est le genre de choses que je n'aime pas beaucoup entendre.
Parce que vous pensez que les gens sous-estiment un peu le temps, tout ce qu'il faut faire pour un animal de compagnie?
Il y a des personnes qui malheureusement prennent des animaux souvent parce que c'est l'enfant qui le veut. Ça, c'est pas un secret, malheureusement. Ça, c'est arrivé. J'ai eu des témoignages aussi où je voyais que des personnes n'arrivaient pas à s'en sortir au niveau de l'éducation de l'animal et qui disaient qu'ils savaient pas quoi faire. Quand ils partaient en vacances, ils étaient vraiment embêtés parce qu'ils voulaient partir, mais qu'ils ne pouvaient pas laisser le chien comme ça en chenille parce que c'est une solution qui plaît pas à tout le monde et même chez une autre personne parce qu'ils ont peur qu'il y ait une destruction. Et à partir de là, il y a des personnes comme moi, par exemple, ou d'autres comportementalistes qui peuvent justement leur dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec des personnes précise pendant qu'ils partent en congé pour éviter à entendre des abandons comme il y en a de plus en plus chaque année, quoi.
Oui, c'est ça. Daniel, vous êtes d'accord aussi, les gens sous-estiment un petit peu le temps qu'il faut prendre pour s'occuper de son chat ou son chien.
Complètement. Vous savez, le prendre un animal, c'est une responsabilité. Lorsqu'on le prend chiot, ben, on part pour minimum 10 ans ben, et plus, bien évidemment, selon les races. Donc, il faut bien poser les choses. Nous sommes, nous, assez vigilants sur les adoptions. Tous les gens qui nous appellent pour adopter sont pas forcément de futurs adoptants. Parce que ben, on fait bien prendre conscience des conditions qui sont nécessaires pour l'animal.
Et voilà, si il faut être informé. Pas,
voilà, il faut être informé. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut faire attention, c'est vrai que il y a une offre assez étendue sur pour des animaux. Il y a les refuges, il y a des professionnels qui font de l'élevage, mais professionnellement. Puis à côté de ça, vous avez tout un tas de gens qui font une portée pour faire 4 sous.
On est d'accord.
Et ça, il faut que ça s'arrête un jour ou l'autre.
On va sûrement parler dans les futures émissions. Merci beaucoup. Merci à Daniel, Véronique et Romain. Pardon à Christine, on n'a pas eu le temps de vous prendre, Christine, mais on va vous prendre dans les prochains jours, c'est promis. Merci beaucoup, parce qu'il est bientôt 13h30 et dans un instant, c'est Bonus Track avec Eric Jean-Jean.